الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous sommes arrivés donc au début de la prêche de manière apparente du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la quatrième année après son envoi. Donc après la quatrième année donc de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc la prêche fut légiférée donc de manière ouverte et apparente. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, donc il a été révélé à ce moment-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil mushrikin. Donc c'est ce verset-ci qui est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui ordonnant de prêcher de manière ouverte et apparente. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, expose donc clairement ce qu'on t'a commandé et détourne-toi des associateurs. Donc il commença alors sallallahu alayhi wa sallam à prêcher l'islam ouvertement et en s'opposant ouvertement à son peuple. Et le tort envers lui et envers les musulmans s'intensifia. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala autorisa les deux immigrations comme nous allons voir maintenant. Donc, après 20, donc l'émigration en Abyssinie. Après que la prêche donc ait été donc légiférée de manière ouverte et ordonnée de manière ouverte, 20, l'émigration en Abyssinie. Donc il dit ici, et 4 parmi les femmes et 12 parmi les hommes, des compagnons, tous émigrèrent vers le pays des Abyssins la cinquième année, et la même ils revinrent. Puis ils retournèrent sans être blâmés. Donc ici l'auteur mentionne les deux hijras, donc vers l'Abyssinie. Et donc elles se sont produites la cinquième année, après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et durant la première immigration vers l'Abyssinie, il y avait donc 4 femmes et 12 hommes. C'est-à-dire qu'ils étaient 16 à immigrer. Et comme on va voir, il y avait Uthman ibn Affan et Ruqayya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la même année, ils sont revenus donc à Mecca. C'est-à-dire durant la cinquième année. Car ils ont été informés que les choses étaient revenues dans l'ordre à Mecca. Et que Quraysh s'était converti à l'islam et donc il ne faisait plus de tort aux musulmans. Donc les musulmans sont revenus vers la Mecque, où ils se sont rapprochés de la Mecque, et lorsqu'ils sont revenus à la Mecque, ils ont vu qu'en réalité c'était une fausse information et c'était un mensonge. Ensuite, donc, vint la deuxième émigration en Abyssinie et la conversion donc de Hamza ibn Abdul Muttalib. Il dit ici 83 hommes avec eux, un groupe jusqu'à ce qu'ils atteignirent, et elles étaient 18, et ensuite se convertit Hamza, le lion, durant la sixième année. Donc Ibn al-Qayyim ici nous rapporte ici l'explication des deux hijras en disant, donc lorsque le nombre des musulmans est devenu donc plus grand, et que les mécréants ont commencé à avoir peur d'eux, leur tort et leur préjudice envers les musulmans augmenta, et envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il leur faisait subir de nombreuses épreuves. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a donc autorisé d'émigrer vers l'Abyssinie. Et il dit, donc il s'y trouve en Abyssinie, donc un roi auprès duquel il n'y a pas d'injustice envers les gens. Donc les musulmans, 12 parmi les hommes et 4 parmi les femmes, donc émigrèrent en Abyssinie. Ça c'était la première émigration. Dont Uthman ibn Affan et Ruqayya, Donc sa femme Ruqayya, qui est donc la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils vécurent en Abyssinie et ils ont été donc bien accueillis. Ils ont donc reçu le meilleur accueil. Et donc il y a certaines informations qui leur parvenaient donc à ces émigrés, donc parmi les Sahaba, comme quoi donc Quraysh s'était converti à l'islam. Mais il s'agissait en réalité d'une fausse information. Donc lorsqu'ils sont retournés à la Mecque, et lorsqu'ils sont parvenus, donc il leur est parvenu qu'en réalité l'affaire était un mensonge, et qu'en réalité la situation était encore plus dure qu'avant, et il y avait encore plus d'épreuves. Ceux d'entre eux qui repartirent le firent. Certains sont retournés donc en Abyssinie. Lorsqu'ils ont vu que l'épreuve s'était intensifiée, ils sont retournés en Abyssinie. Et d'autres sont restés donc à la Mecque. Et parmi ceux qui rentrèrent, il y avait Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Et puis il leur fut autorisé d'immigrer une deuxième fois. Et donc là, il y avait 83 hommes. Donc il y avait 83 hommes et 18 femmes. Donc ils restèrent donc auprès du Négus dans la meilleure des situations. C'est-à-dire qu'ils étaient bien accueillis en Abyssinie et ils ne rencontraient aucun tort et aucune injustice. Et lorsque Quraysh donc a appris cela, ils ont envoyé Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a avec un groupe afin qu'ils rusent contre les musulmans qui étaient en Abyssinie et auprès du Négus. Et Allah leur renvoya alors leur ruse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à ruser. Et donc, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit rentré dans la maison d'Al-Arqam, c'est-à-dire la maison dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réunissait avec les musulmans pour au début de sa da'wah, donc ensuite se convertit Hamza, c'est-à-dire l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son frère de lait. Donc Hamza, c'était l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son frère de lait. Et il a été dit que sa conversion fut donc la deuxième année de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sa conversion fut un soutien à la religion et une puissance pour les musulmans. Et quelques jours après, yani c'est Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu qui s'est converti donc à l'islam. Et leur conversion fut une victoire par laquelle Allah donna de la force et de la puissance à l'islam et aux musulmans. Radiallahu anhum ajma'in. Ensuite, donc puis 9 ans après que son message ait débuté, mourut Abu Talib, celui qui se chargeait de lui, et après lui, donc la même année, mourut Khadija radiallahu anha, après que 3 jours furent passés. Donc dans la même année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam yani fut touché par ces deux épreuves-là. La mort donc de son oncle Abu Talib, qui se chargeait de lui et qui le défendait, ainsi que son épouse, donc Khadija radiallahu anha. Et ça, c'était lors de la 9e année de son envoi. Donc la 9e année de son envoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut touché par cette épreuve. Et Ibn Kathir rapporte que certains historiens ont dit qu'elle est morte avant Abu Talib. Mais l'avis le plus connu, c'est qu'elle est morte après lui. Ça, c'est l'avis qui est le plus célèbre. Et lui mourut mécréant et elle mourut donc croyante. Ibn Ishaq, rahimahullah, dit puis Khadija et Abu Talib, yani, moururent tous deux là, donc dans la même année. Et les épreuves s'enchaînèrent pour le messager d'Allah avec le décès de Khadija radiallahu anha. Car elle était pour lui donc un soutien. dans les épreuves et il vivait donc en toute tranquillité avec elle. Et avec le décès de Abu Talib, c'est-à-dire son oncle, ce fut aussi une épreuve pour lui car il était une protection et un soutien donc concernant donc ses affaires. Donc il faut savoir que Abu Talib retenait son peuple et donc de ne pas faire donc de mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le faisant ainsi donc triompher de lui. Et ceci arriva 3 ans avant l'émigration de Médine. Et lorsque Abu Talib périt, donc est mort, il faut savoir que Quraysh à ce moment-là, ils ont fait preuve encore plus d'animosité envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort de Abu Talib. Donc ils ont fait cela car ils ne pouvaient pas espérer le faire lorsque Abu Talib était en vie. Et donc, ce qui est connu chez les gens, les historiens, c'est que Khadija est décédée 3 jours après, donc Abu Talib. C'est ce que les historiens, donc, ont mentionné. Comme cela a été rapporté par Ibn Kathir et d'autres. Ensuite, après la mort de Abu Talib et de Khadija, radiallahu anha, vint donc l'islam des djinns de Nusaybin. Nusaybin qui est une ville entre la Turquie et la Syrie. C'est-à-dire, après donc 50 jours et un quart, se convertirent des djinns de Nusaybin. Et sache, et ils repartirent. Donc alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 50 ans et 3 mois, donc lorsqu'il avait 50 ans et 3 mois, donc, il y a des djinns qui vinrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam et se convertirent donc à l'islam. Et c'était des djinns de Nusaybin, comme on a mentionné, c'est une ville entre la Turquie et la Syrie. Ibn Kathir, rahimahullah, dit, Muhammad ibn Ishaq mentionne, d'après Yazid, donc Ibn Rumman, d'après Muhammad ibn Ka'b, al-Qurazi, l'histoire de la sortie du messager d'Allah à Taïf, son prêche à Allah envers eux et leur refus. Il mentionna alors l'histoire en détail et il rapporte cette bonne invocation. Ô Allah, à toi je me plains de la faiblesse de ma force et le peu de mes moyens. Donc, jusqu'à la fin, lorsqu'il partit de chez eux, il passa la nuit près d'un palmier et récita des versets du Coran, et des djinns de Nusaybin passaient donc par là et l'entendirent. Et c'est comme ça qu'ils se sont convertis à l'islam, et ensuite ils sont retournés donc vers leur peuple, et les ont appelés donc aussi à l'islam. Ils sont retournés donc en tant qu'avertisseurs. Et cela a été rapporté dans le Coran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc rappelle-toi, lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent « Écoutez attentivement ». Puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Et donc ceci est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé donc aux humains et aux djinns. Ensuite, donc, et puis, avec Saouda, il conclut du mariage le contrat durant Ramadan. Puis après cela, le contrat de la fille du véridique durant Shawwal. Donc après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se maria à Saouda. Saouda, c'était donc sa deuxième femme. La deuxième femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelait Saouda. Donc, peu après la mort de Khadija, radiallahu anha, donc, qui était la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a épousé, donc, aucune autre femme, alors qu'il était, avec Khadija. Jusqu'à ce que celle-ci, donc, décède. Donc il maria peu après sa mort Saouda. Donc avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant d'épouser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Saouda était mariée avec donc As-Sakran ibn Amr. Et ils faisaient tous deux partie de ceux qui ont émigré donc en Abyssinie. Puis après leur retour à la Mecque, donc Saouda reste avec son mari jusqu'à ce qu'il mourût. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam épousa Saouda durant le Ramadan, 2 ou 3 ans donc avant l'émigration vers Médine. Et ensuite après Saouda, il épousa donc Aïcha radiyallahu anha, la fille de Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma. Et cela durant le mois de Shawwal avant l'émigration à Médine. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Aïcha radiyallahu anha avant l'émigration donc à Médine durant le mois de Shawwal. Et parmi les spécificités de Aïcha radiyallahu anha, c'est qu'elle était l'épouse la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était la seule femme vierge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mariée. Et la révélation descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était avec Aïcha, donc dans son lit. Et elle a été innocentée de la calomnie dont elle a été accusée. Et Allah a descendu une révélation, donc un verset à ce sujet, qui se récite dans son livre. Donc ça, et parmi ses spécificités aussi, c'est que c'était donc la femme la plus savante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on peut même dire que c'était la femme la plus savante, radiyallahu anha. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda, donc, alors qu'il était sur sa poitrine et dans sa maison, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite vient le voyage nocturne, c'est-à-dire l'Isra ou le Mi'raj. Donc après 50, c'est-à-dire après 50 ans, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 50 ans, donc après la 50e année, après 50, un an fut passé. On le fit voyager de nuit et la prière fut légiférée 50 pour, donc 5 pour 50, comme elle a été préservée. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu 50 ans et 6 mois, donc on le fit voyager donc de Mecca, donc de nuit, de Mecca jusqu'à Jérusalem, jusqu'à El Beit El Maqdis. Et durant la même nuit, on lui fit faire l'ascension au-dessus des 7 cieux. Et c'est là-bas que les 5 prières obligatoires donc furent prescrites. Et à la base, elles étaient donc 50, comme on va voir maintenant. Donc, c'est 5 prières qui ont la récompense de 50 prières. Ibn Kathir, rahimahullah, dit, donc on prit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en voyage nocturne avec son corps. C'est-à-dire que les savants ont divergé dans cela, néanmoins, l'avis le plus correct, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le fit faire le voyage nocturne avec son corps. Depuis la mosquée sacrée, depuis Mecca jusqu'à Jérusalem, il monta donc sur El Buraq, donc en compagnie de Djibril, et descendit donc là-bas. Et il fut l'imam des prophètes à Jérusalem. C'est-à-dire que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fut l'imam de tous les prophètes à Jérusalem. Et donc il dirigea la prière. Puis on lui fit faire donc l'ascension dans la même nuit, depuis cet endroit jusqu'au ciel, donc d'ici-bas. Puis à celui qui le suit, puis le troisième, puis celui qui le suit, donc puis le cinquième, puis le sixième, et puis le septième ciel. Et il vit tous les prophètes selon leur rang. Puis on lui fit faire l'ascension, et il vit auprès de lui donc Jibril sous la forme dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Donc il a vu Jibril, sous sa forme réelle. Et c'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donc enjoint et c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit les prières obligatoires. Donc c'est durant cette nuit-là. Ensuite vint le premier serment d'Al-Aqaba. Et le premier serment avec 12 des habitants de Taïba, c'est-à-dire de Médine, comme cela a été mentionné. Donc le premier serment d'Al-Aqaba avec 12 hommes des habitants de Médine. Ibn Ishaq, rahimahullah, dit lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire triompher donc sa religion et qu'il a voulu renforcer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah donc sortit lors de la saison dans laquelle il rencontra un groupe des Ansar. Et il se présenta aux tribus des Arabes comme il le faisait à chaque saison. Alors qu'il était à Al-Aqaba, donc il rencontra un groupe de Khazraj, qui est une tribu de Médine, pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a voulu le bien. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré donc 12 des Ansar à Al-Aqaba. Et ils répondirent à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils ont accepté, donc ils ont prêté serment au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils crurent en lui, et ils s'en allèrent et retournèrent auprès de leur peuple. Puis il dit, donc lorsqu'ils se rendirent à Médine, auprès de leur peuple, donc ils ont mentionné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam auprès de leur peuple, et ils les ont appelés à l'islam, jusqu'à ce que l'islam se propage chez eux. Il n'y avait pas une maison sans laquelle, il n'y avait pas une maison des Ansar sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'y soit mentionné. Sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'arriva la saison suivante, c'est-à-dire de l'année suivante, donc 12 hommes parmi les Ansar partirent et ils se rencontrèrent à Al-Aqaba. Il s'agit du premier serment d'Al-Aqaba. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont prêté serment au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme donc du même serment des femmes. Et ceci était avant que la guerre leur soit légiférée. Ici, quand on parle du serment des femmes, c'est-à-dire le même serment que celui que prêtèrent les femmes dans la sourate Al-Mumtahana. Comme cela a été rapporté dans Bukhari et Muslim, donc selon Ubadata ibn Samit radiyallahu anhu, il dit: je fais certes partie des représentants qui prêtèrent serment au messager d'Allah, c'est-à-dire lors du serment donc d'Al-Aqaba. Il dit: nous lui prêtâmes serment de ne rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas voler, de ne pas forniquer et de ne pas tuer l'âme qu'Allah a rendue sacrée, si ce n'est de bon droit, et de ne pas se voler les uns les autres, de ne pas désobéir, et que le paradis nous serait donné si nous faisions cela. Et que si nous commettions quelque chose de cela, donc le jugement serait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite vint le deuxième serment d'Al-Aqaba. Donc maintenant on a parlé du premier serment avec les 12 hommes, donc maintenant vint le second serment d'Al-Aqaba. Donc après 52 ans, vers 70, donc 70 ici c'est 70 chez nous, néanmoins chez les Français ils disent 70, donc 70 cette saison, ce qui est confirmé, de Taïba, c'est-à-dire de Médine, ils prêtèrent serment. Puis il a émigré de la Mecque un lundi du mois de Safar. Donc maintenant on va parler de le second serment d'Al-Aqaba. Donc après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut 52 ans, donc 70 hommes de Médine vinrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la saison du Hajj. Donc ça c'était pendant la saison du Hajj, pour lui prêter donc le second serment d'Al-Aqaba, comme cela a été rapporté dans des hadiths authentiques. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam émigra donc vers Médine, et cela eut lieu un lundi. Donc cela eut lieu un lundi du mois de Safar. Et il a été dit que c'était durant Rabi al-Awwal. Donc les savants ont divergé. Mais ils n'ont pas divergé quant au fait que c'était un lundi. Ibn Kathir, rahimahullah, dit donc, l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu lieu durant le mois de Rabi al-Awwal. Donc ici, Ibn Kathir est d'avis que ça a été, donc cela a eu lieu le mois de Rabi al-Awwal, de la 13e année de son envoi. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait quel âge ? 53 ans. Comme le rapporte l'imam Ahmed, d'après Ibn Abbas, il dit, donc votre prophète est né un lundi, il sortit de la Mecque un lundi, et il est devenu prophète un lundi, et il arriva donc un lundi à Médine, et il mourut un lundi. Ça, on avait déjà vu au début, on avait déjà mentionné ces choses-là lors du premier cours. Ensuite vint donc son émigration à Médine. Donc il vint à Taïba, l'agré avec certitude, lorsque 53 ans furent complétés. Un lundi, et il y est resté 10 ans complets, on le rapporte. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 53 ans quand il est arrivé à Médine. Et il est resté donc à Médine pendant 10 ans jusqu'à sa mort. Donc il est resté 13 ans à Mecca et 10 ans à Médine. Et il est mort à Médine sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ibn Abbas radiallahu anhuma a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam donc a été envoyé à 40 ans. Donc il reçut la révélation à 40 ans. Il resta 13 ans à la Mecque et la révélation donc descendait sur lui. Puis l'émigration donc lui fut ordonnée et il immigra donc puis resta 10 ans à la Mecque à Médine et il mourut à 63 ans sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite vint là donc la prescription de la prière en 4 unités après qu'elle eût été de 2 unités. Il dit, fut complétée durant la première la prière du résident après que fut regroupée. Écoute donc mon renseignement. Donc la première année de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière du résident fut complétée. C'est-à-dire que la prière du dhuhr, la prière donc de l'asr et la prière de l'isha donc sont devenues 4 unités de prière. Avant cela, il priait donc 2 unités de prière. C'est-à-dire le dhuhr, c'était 2 unités, l'asr, c'était 2 unités et l'isha, c'était 2 unités. Néanmoins, quand il est arrivé à Médine, donc c'est devenu 4 unités de prière. Comme cela a été rapporté donc dans As-Sahihain, dans Al-Bukhari et Muslim, selon Aisha radiallahu anha, elle dit, la prière fut prescrite en 2 unités, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam émigra, et elle fut prescrite en 4 unités. Et la prière du voyageur, donc, fut laissée sur ce quoi elle était en premier, c'est-à-dire 2 unités. C'est-à-dire la prière du voyageur s'est restée comme cela était, comme la prière était à Mecca, c'est-à-dire 2 unités de prière. Donc, ensuite vint la première prière du vendredi, accomplie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Donc, il pria la prière du vendredi après avoir émigré à Médine. Sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir a dit, lorsqu'il a quitté Quba, le masjid qui est connu à Médine, et alors qu'il est monté sur sa chamelle, un vendredi, l'heure du zénith arriva. Alors qu'il était donc dans la maison de Banu Salim ibn Auf, il pria avec les musulmans la prière du vendredi dans une vallée qui s'appelait Wadi, donc Ranouna. Et ce fut la première prière du vendredi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec les musulmans à Médine. Ou de manière absolue. Car il n'était pas capable donc de prier cela avec ses compagnons à Mecca. Donc, et ceci à cause du fait que Quraysh faisait preuve donc de dureté et faisait du tort aux musulmans donc à ce moment-là. Ensuite vint la construction de la mosquée de Quba et la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, puis la mosquée à Quba, il construisit, et la mosquée de Médine l'anoblit. Donc la mosquée de Quba qui est connue, elle est au sud, donc de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait lorsqu'il est arrivé à Médine, c'est de construire une mosquée. Et cette mosquée-là s'appelait Masjid, donc le Masjid Quba. Alors qu'il habitait encore chez le Banu Amr ibn Auf. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas commencé par construire une habitation et une maison pour lui. Il a d'abord commencé par construire une mosquée. Donc, et il resta chez Banu Amr ibn Auf du lundi au vendredi. Et ça, c'est la vie le plus connu et le plus célèbre. Et cela prouve donc qu'il est obligatoire donc de construire une mosquée et que ça doit être la préoccupation la plus grande pour le musulman. Et la mosquée de Médine l'anoblit, c'est-à-dire que après il construisit donc la mosquée de Médine, c'est-à-dire la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et il a lui-même acheté l'emplacement pour construire donc cela. Donc il acheta donc un emplacement qui servait à faire pousser des dattes pour Souheil et Sahl. C'était deux orphelins. Donc il construisit donc la mosquée en cet endroit, comme cela est rapporté dans Sahih Bukhari. Il portait avec eux les briques et prit part à la construction de la mosquée. Et il disait, sallallahu alayhi wa sallam, « Ô Allah, certes la récompense est dans l'au-delà, récompensée donc, cette récompense donc, fait donc miséricorde aux Ansar et aux émigrés. » هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا